La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour et bienvenue dans l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Aujourd'hui, avec Fab, nous allons évoquer la santé bucco-dentaire. Saviez-vous que notre bouche héberge environ 10 milliards de micro-organismes, représentant plus de 700 espèces différentes de bactéries, levures, virus ? Rien que ça. Comment entretenir une flore buccale équilibrée ? Parlons-en aujourd'hui.
Malika Cécile, que peux-tu nous dire sur la flore buccale ?
Alors, dans une émission précédente, nous avions développé le sujet de la flore intestinale et de son importance sur notre santé et bien-être général. Sur le même principe, entretenir une flore buccale équilibrée permet d'éviter de nombreux problèmes de santé. Le rôle de cette flore buccale est de protéger les dents, les gencives, les muqueuses contre des invasions d'agents pathogènes. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de flore dans votre bouche. Il y a la flore supra-gingivale, qui est en contact avec l'oxygène de l'air, mais aussi la salive et les aliments. Et il y a la flore sous-gingivale, qui elle n'est jamais en contact avec l'oxygène de l'air. On va parler de bactéries anaérobies. Et quand certaines conditions affectent défavorablement cet écosystème, ce qu'on appelle, entre guillemets, les bonnes bactéries vont céder du terrain à ce qu'on appelle, entre guillemets, les mauvaises bactéries. Et les conséquences possibles vont être une déminéralisation des dents, des maladies au niveau des gencives ou des maladies parodontales.
Et petite question, quelle est la différence entre une gingivite et une parodontite ?
Alors, la gingivite est un processus inflammatoire à cause duquel les gencives peuvent gonfler, rougir et devenir vraiment très très sensibles au toucher. Les saignements au contact de la brosse à dents ou du fil dentaire et la douleur qui est provoquée par la mastication sont un signe de maladie gingivale. Les bactéries colonisent notre bouche en se multipliant dans la plaque dentaire qui se forme au niveau des dents. Si la plaque n'est pas éliminée régulièrement, elle va se transformer en tartre. La plaque dentaire et le tartre sont la principale cause de gingivite. Il faut savoir que la gingivite est réversible une fois la phase aiguë passée et grâce à un traitement d'hygiène professionnelle et domestique soigneux. La gingivite ne laisse pas de traces et une guérison complète peut être obtenue après l'intervention du dentiste. La parodontite, elle, est une infection profonde des gencives et du tissu qui soutient la dent. Ça peut donc entraîner la perte d'une dent. Concrètement, une personne souffrant d'une maladie parodontale peut avoir des symptômes comme une mauvaise haleine, des gencives tendres ou saignantes, une mastication qui est parfois douloureuse, des dents qui sont lâches, sensibles et également le recul des gencives. La parodontite crée des dommages irréversibles. Et en règle générale, une gingivite qui n'est pas traitée peut conduire à une parodontite à effet irréversible.
Et peux-tu nous faire un état des lieux de la situation en France ?
Oui, apparemment, on n'est pas très bon. Les Français achètent en moyenne une brosse à dents et demie par an, alors qu'il est conseillé d'en acheter au moins 4. Le temps moyen de brossage n'est en moyenne que de 56 secondes, tandis que les recommandations sont plutôt de 2 minutes. 41% des Français ne respectent pas la préconisation d'une visite annuelle chez le dentiste. Bon, bah là, j'avoue, moi, je fais partie des mauvais élèves. Mais jusqu'ici, tout va bien. Et encore quelques chiffres, la carie touche plus d'un tiers des enfants de 6 ans, 45% des enfants de 12 ans et plus, et plus de 75% de la population adulte. Donc c'est quand même quelque chose qui concerne pratiquement tout le monde. Les maladies parodontales atteignent elles aussi la majorité de la population adulte, dont 15% sévèrement. C'est souvent lié avec le tabac. Et elles sont responsables de la plupart des pertes dentaires dans la deuxième moitié de vie. Par exemple, le nombre de dents absentes par personne est de 3 dans la tranche d'âge 35-44. mais de 17 dents dans la tranche d'âge 65-74 ans.
Et peux-tu nous rappeler les bonnes et les mauvaises habitudes en matière d'hygiène buccale ?
Mais en fait, pensez à tout ce que vous pouvez mettre dans votre bouche et qui contient des bactéries. L'alimentation, la brosse à dents. Ça fait combien de temps que vous avez votre petite brosse à dents qui macère dans son pot ce que vous mâchouillez en travaillant, quand vous vous rongez les ongles. Tout ça, en fait, ça va dans votre bouche. Il y a aussi la qualité du dentifrice, dans lequel on peut retrouver des ingrédients qui peuvent être controversés, comme le fluor, le sodium, le sulfate. Évidemment, le fait de fumer va perturber la flore buccale au profit des bactéries dites pathogènes. Et ça va maintenir un niveau d'inflammation dans la bouche beaucoup plus élevé que chez les non-fumeurs. D'ailleurs, le risque de parodontite est environ 4 fois plus élevé chez les fumeurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un ancien fumeur retrouve dans sa bouche un profil bactérien proche de celui d'un non-fumeur. Et en matière de santé bucco-dentaire, y a plusieurs écoles et les consignes évoluent. Habituellement, on préconise l'utilisation d'une brosse à dents souple, avec une petite tête pour pouvoir vraiment atteindre des endroits difficiles d'accès. Les poils souples se glissent aussi plus facilement entre les dents, ce qui va permettre un meilleur nettoyage. Dans tous les cas, les brosses à dents à poils durs sont plutôt déconseillées parce qu'elles peuvent blesser les gencives et abîmer les dents. Pensez donc à changer votre brosse à dents dès que les poils commencent à s'abîmer et au minimum tous les 3 mois. On va essayer d'être meilleur en France que ce qu'on l'est actuellement. L'essentiel pour préserver une bonne hygiène bucco-dentaire, ça va être la qualité du brossage. Le brossage des dents va permettre de décoller cette plaque dentaire et d'éliminer les débris alimentaires. Donc, il ne faut pas négliger cette façon de vous brosser les dents. On brosse toute la surface de la dent, de la gencive vers la pointe, et pendant au moins 2 minutes, 2 fois par jour. Vous vous souviendrez peut-être, en tout cas moi je m'en souviens, qu'avant il était conseillé de se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes. Maintenant c'est 2 fois pendant 2 minutes, les modes changent.
On lit souvent aussi qu'il est recommandé de mâcher un chewing-gum après un repas quand le brossage n'est pas possible. Qu'en est-il ?
Ah, le chewing-gum. Débarqué en France dans les poches des soldats américains dès la Première Guerre mondiale, les chewing-gums ont longtemps su séduire les Français. Ces dernières années, malgré un effort pour essayer de coller aux tendances, le marché a décroché. D'après le ministère de l'Agriculture, le marché français du chewing-gum a chuté de 6% par an depuis 2007. Donc ça fait beaucoup. Et actuellement, le seul argument de poids pour finalement encourager sa consommation, c'est la toux-santé. Donc on n'insiste plus finalement sur le plaisir de mâcher un chewing-gum, mais plus sur la santé bucco-dentaire. Et donc selon eux, mâcher un chewing-gum après le repas serait bénéfique pour notre hygiène et ça pourrait même pallier l'absence de brossage des dents. Donc on peut se poser des questions sur cet argument. On peut déjà regarder la composition d'un chewing-gum. Elle est très variable et elle utilise en général 5 types d'ingrédients avec la gomme de base, les arômes, les colorants, les conservateurs et les édulcorants. 95% des dragées et des tablettes commercialisées en France sont dites sans sucre. Pour pouvoir faire cela, les fabricants vont utiliser de l'aspartame, du xylitol et parfois du sorbitol ou du maltitol. Ces édulcorants de la famille des polyols possèdent un pouvoir sucrant inférieur ou égal à celui du sucre, mais avec l'avantage d'être moins calorique. Le benzoate de sodium, le E211, c'est l'un des conservateurs principaux utilisés dans les chewing-gums, et celui-ci il a été un peu accusé de rendre les enfants hyperactifs, etc. À ce jour, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, n'a pas validé cette accusation parce qu'elle trouve que les preuves sont insuffisantes. Concernant la digestion, la mastication de gomme à mâcher peut induire une production de salive. En avalant, le masticateur va déglutir de l'air. Et ça peut provoquer des ballonnements, des flatulences. Il faut aussi savoir que les polyols fermentissibles, ce qu'on appelle les FODMAP, et dans cette liste on peut mettre le sorbitol, le maltitol, le xylitol, ces polyols pourraient accentuer les symptômes des personnes qui souffrent de l'intestin irritable. Donc peut-être à éviter. Le fait de mastiquer, ça indique aussi à notre corps qu'il est sur le point de recevoir de la nourriture, c'est pas pour rien qu'on mastique. Du coup, il va activer des enzymes de digestion, des acides qui vont permettre de digérer justement ces aliments qu'on est censé recevoir. Mais cette nourriture n'arrive jamais puisqu'on est juste en train de mâcher un chewing-gum. Donc ce phénomène, il est régulièrement pointé du doigt et on entend qu'il peut augmenter les ballonnements, amener à une surproduction d'acide gastrique qui peut être à l'origine d'un reflux, le fameux RGO, reflux gastro-œsophagien, que ça peut diminuer la capacité de notre organisme à sécréter par la suite suffisamment de sucs digestifs. Après, il y a aussi des effets qui peuvent être potentiellement bénéfiques. En 2013, il y a une étude qui a montré que les chewing-gums pouvaient accélérer la reprise d'un transit intestinal après une opération chirurgicale. Pourquoi ? Parce que les mouvements de la mastication vont stimuler directement et indirectement l'ensemble du système digestif, intestin compris. Et enfin, l'Union française de la santé bucco-dentaire préconise de mâcher un chewing-gum sans sucre pendant 20 minutes après le repas du midi, puisqu'on conseille maintenant de brosser les dents matin et soir. Et en effet, la mastication de la gomme va produire une salive qui va balayer la cavité buccale, favoriser l'élimination de la plaque dentaire à l'origine des caries et du développement sur la langue de molécules soufrées qui peuvent amener une mauvaise haleine. Grâce au bicarbonate qu'elle contient, la salive peut aussi neutraliser l'effet acidifiant de certains aliments. Et le pH acide est favorable au développement de la plaque dentaire. Donc ça peut être effectivement intéressant de mâcher un chewing-gum dans ces conditions-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour éliminer la plaque dentaire, puisque le brossage et le nettoyage interdentaire sont quand même indispensables. Donc on ne peut pas que mâcher des chewing-gums. C'est le moment de faire une petite pause musicale avec Mil Pasos de Soa. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverás,
je suis si loin déjà.
Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverás,
y tú no m'attends pas.
Cuando volverás, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no m'attends pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Fab, nous parlons de la santé bucco-dentaire.
Malika Cécile, que penser des dentifrices avec ou sans fluor ?
Vous l'avez sûrement entendu, il y a beaucoup de controverses qui existent concernant le dentifrice fluoré. Il est présenté comme la mesure d'hygiène individuelle la plus efficace pour prévenir la carie. Et il permet de la destruction de la plaque dentaire et des biofilms bactériens. Donc ça, c'est vraiment le discours principal qu'on peut entendre. Mais il y a des personnes qui se sont interrogées. Et c'est un peu un autre visage de cette substance que nous montre, par exemple, Audrey Gluhagen, la réalisatrice de l'enquête intitulée « Fluor, un ami qui vous veut du mal ». Dans ce documentaire, il est souligné que le fluor fait partie des 10 produits chimiques qui peuvent poser un problème majeur de santé publique. Correctement utilisés, les produits à base de fluor peuvent prévenir effectivement l'apparition des caries. En revanche, c'est l'apport excessif qui peut provoquer des problèmes de santé. Par exemple, il y a la fluorose dentaire. L'excès de fluor peut provoquer l'apparition de taches blanches sur les dents, de couleur blanc à marron, on va dire, et cela, ça peut se produire seulement si, alors que vous étiez un jeune enfant, vous avez ingéré trop de fluorure pendant que vos dents permanentes étaient en train de se développer sous les gencives. Il y a ensuite ce qu'on appelle la fluorose osseuse, c'est-à-dire l'accumulation excessive de fluor qui peut provoquer des changements dans la structure des os. Et ils vont devenir plus fragiles et cassants. Il y a une étude française qui a conclu que 45% des enfants âgés de 4 à 12 ans auraient des apports excessifs en fluor. Donc il faut quand même être vigilant. Et c'est bien de garder à l'esprit que le dentifrice n'est pas la seule source de fluor à laquelle on est exposé, puisqu'on peut en retrouver dans des sachets de thé, dans le sel de table, dans l'eau du robinet. On peut le retrouver dans des emballages alimentaires, dans les revêtements des poils en téflon, dans des imperméabilisants de vêtements ou de chaussures. Et finalement, c'est cet effet cocktail, cet ajout de toutes ces expositions au fluor qui... peut poser problème au moment des qui peut poser des problèmes en termes d'exposition. Alors pour rappel, pour les enfants, il est recommandé et même demandé de ne pas dépasser 1 mg par jour. Pour les adultes, on est à 4 mg par jour. Et comme on le rappelle souvent en toxicologie, c'est la dose qui fait l'effet. Donc soyez vraiment vigilants lors du brossage des dents de vos enfants. Étant donné que les très jeunes n'ont pas encore vraiment cette capacité à recracher, il est possible qu'ils avalent un petit peu de dentifrice lors du brossage, et donc du fluor. Il est donc vraiment demandé d'utiliser une quantité appropriée de dentifrice selon l'âge de votre enfant. Pour les tout-petits, vous pouvez consulter un professionnel de santé qui va déterminer s'il a un risque de carie, etc. Et à partir de là, c'est l'adulte qui va brosser les dents de l'enfant avec une quantité, mais vraiment minime, de la taille d'un grain de riz de dentifrice fluoré. Et ça, c'est valable jusqu'à l'âge des 3 ans de l'enfant. De 3 à 6, c'est toujours recommandé qu'il y ait l'aide d'un adulte pour brosser les dents. Et la quantité de dentifrice, elle va être celle d'un petit poids, donc 5 mm maximum, de dentifrice fluoré. Donc c'est une mesure simple qui permet d'éviter le surdosage. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, désormais, de toute façon, sur le marché, on trouve aussi des dentifrices sans fluor. Donc ça, c'est aussi un choix qu'on peut faire maintenant très facilement.
Qu'en est-il de l'utilisation du fil dentaire ?
Alors, là aussi, ça ne fait pas forcément l'unanimité. Bien manipulé dans une bouche saine, c'est un moyen efficace et peu coûteux de compléter un brossage, parce qu'on peut accéder dans des espaces où la brosse à dents ne pouvait pas, et ça permet de nettoyer, d'enlever les résidus de nourriture. Dans une bouche où il y a déjà des déséquilibres, avec des petites infections, le fil dentaire, ça peut être contre-productif et accentuer la propagation des mauvaises bactéries par des petites blessures que le fil dentaire peut occasionner. C'est pourquoi le jet dentaire, donc cette espèce d'hydropropulseur, semble plus indiqué que le fil dentaire, car dans ce cas-là, il sera moins blessant. Et bien que peu pratiqué en France, moi je le conseille souvent, c'est le nettoyage de la langue, parce que ça fait partie des soins quotidiens dans d'autres cultures comme l'Inde ou la Chine. Comment ? C'est très simple, il suffit de faire un grattage doux avec par exemple une cuillère à café, une petite cuillère à café, ou de se procurer un gratte-langue. Et on fait 3-4 passages le matin au réveil pour en tirant bien la langue. Et ensuite, on rince abondamment avec de l'eau claire. Donc ça aussi, c'est une mesure d'hygiène bucco-dentaire, même si on ne la pratique pas beaucoup chez nous. Concernant les rinces-bouches, certains médecins mettent en garde parce qu'il y a beaucoup d'antiseptiques à l'intérieur, comme la chlorhexidine. Et ça détruit toutes les populations bactériennes sans distinction bonne ou mauvaise. Donc un usage excessif pourrait entraîner un déséquilibre de la flore buccale. Donc toujours avoir un usage approprié de tous ces outils. Enfin, j'aimerais préciser, évidemment, que l'alimentation peut influencer la santé bucco-dentaire. Choisir des aliments qui apportent des nutriments de qualité et en quantité suffisante, c'est important. Ceux-ci vont avoir une influence favorable, y compris sur le microbiote intestinal. Il faut limiter autant que possible les sucres qui favorisent la formation de la plaque dentaire et la prolifération des bactéries pathogènes. Sachez qu'il existe des probiotiques aussi à mâcher pour améliorer la qualité de la flore buccale et limiter le risque de caries, notamment avec les bactéries de la famille des lactobacilles. Et elle serait même d'ailleurs efficace pour limiter la croissance des bactéries parodontopathogènes. Pas facile à prononcer.
Malika Cécile, est-ce que la santé buccale influence la santé en général ?
Et oui, vous l'aurez compris, au fil des émissions de la Panacée, la naturopathie considère l'état de santé et de bien-être dans son ensemble et de façon holistique. La qualité de la flore buccale ne fait pas exception. Et d'ailleurs, la dentisterie holistique est une discipline qui existe pour soigner à la fois le problème dentaire et la cause de ce dernier. Donc, un écosystème buccal en mauvais état peut générer la prolifération de certains micro-organismes pathogènes susceptibles de migrer vers d'autres régions du corps. Ces micro-organismes, ainsi que des fragments de plaques dentaires, peuvent se détacher régulièrement et causer des infections à distance, lorsqu'ils pénètrent par exemple le système circulatoire, via des inflammations dentaires, des caries ou encore des abcès. Ces bactéries peuvent se répandre dans le sang, en passant par les vaisseaux sanguins, et provoquer des inflammations. Il n'est donc pas étonnant que votre praticien vous propose un traitement antibiotique avant une opération de chirurgie bucco-dentaire. Des infections dentaires graves peuvent représenter un risque chez les personnes fatiguées ou au système immunitaire affaibli. C'est un peu la porte ouverte à des troubles plus sévères comme des endocardites infectieuses liées à une pénétration massive, par exemple de streptocoques, dans les valvules cardiaques. D'un autre côté, des troubles de santé peuvent également provoquer une altération de votre santé bucco-dentaire. Ça va dans les deux sens. Par exemple, c'est le cas du reflux gastro-œsophagien. Celui-ci se manifeste par une remontée de contenu acide de l'estomac jusque dans l'œsophage et parfois même dans la bouche. Et lorsque le phénomène est trop fréquent, le pH de la bouche il va s'acidifier et ça va affecter progressivement l'émail des dents. Donc, quelques chiffres sur la question. Il y aurait 24% des personnes qui sont touchées par un reflux gastro-œsophagien et qui auraient également un problème d'érosion dentaire. Et il y a environ un tiers des cas d'érosion dentaire qui sont causés par le reflux gastro-œsophagien. Donc, au bout du compte, prendre soin de sa bouche et de son écosystème microbien, c'est pas bien compliqué, ça ne coûte pas très cher et ça permet d'éviter des ennuis vraiment désagréables. Puisque les infections les plus graves, notamment parodontales, nécessitent de grosses opérations de chirurgie. Alors, mangez et buvez moins sucré, choisissez ou fabriquez vous-même vos produits d'hygiène adaptés et consultez préventivement votre dentiste. C'était Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse avec Fab pour l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.